midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Vous montrer qu'il y a des hommes et des femmes de talent qui se démènent pour faire changer les choses en France. Gros plan aujourd'hui sur un phénomène qui prend de l'ampleur, celui des cagnottes et du financement participatif. Oui, nous donnons directement, de manière ciblée aussi. Et il y a des acteurs français très implantés sur ce marché qui est devenu un véritable business. Elle existe depuis 1890. C'est un des grands noms du coteau en France. Opinel est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, une peluche pour accompagner l'enfant hospitalisé. C'est l'hôpital de Mondoudou, l'initiative imaginée par l'hôpital Necker et Pharmavie. Une solution pour leur rendre le parcours de soins plus facile. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole. Venez nous dire, tiens, si vous donnez sur des cagnottes ou si vous soutenez, Anissa, des projets via ce que l'on appelle le crowdfunding.
Et si vous le faites, venez nous dire si elles sont françaises, ces plateformes participatives. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir et témoigner sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et pour accueillir nos invités, comme chaque jour à mes côtés, Elisabeth Assayagela. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Marie-Éloi est là également, fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Bonjour Marie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Au moment où les acteurs historiques du secteur caritatif voient les dons baisser de manière plutôt significative, on voit, nous, exploser le nombre de collectes en tout genre sur Internet. Bonjour Benjamin Blanchet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Litchi. Ça fait 9 ans déjà que vous existez avec Litchi et ce sont 12 millions d'utilisateurs qui sont déjà venus mettre de l'argent sur votre site, soit tout simplement pour faire un cadeau à une collègue pour un départ à la retraite, soit pour un anniversaire quand, par exemple, les invités sont aux quatre coins du pays. Racontez-moi, comment est née cette idée de service ?
Alors effectivement, on fête notre 10e anniversaire cette année, en novembre exactement. Donc on est une entreprise qui a déjà un certain historique. Mm-hmm. Et l'idée de base, en fait, était que notre fondatrice Céline Lazorte cherchait un outil à l'époque, en 2009, pour organiser le week-end de promo de son master. Et tout simplement, elle a fait un constat qu'il n'y avait rien du tout à l'époque qui permettait de fédérer un groupe, de collecter de l'argent auprès d'un groupe facilement. Et donc l'idée est née de ce constat-là et elle a travaillé très rapidement sur ce qu'est maintenant Litchi, la cagnotte en ligne.
Ouais, comment est-ce qu'elle a construit le modèle ? Comment est-ce qu'elle l'a imaginé ?
Alors, le concept de base, c'est la petite enveloppe passe de personne en personne pour, par exemple, financer un pot de départ ou c'est l'envoi de chèques par la poste à une personne pour récupérer l'argent, à des choses très fastidieuses, longues. Et donc, elle s'est appuyée sur ce constat-là pour imaginer un service complètement digitalisé en ligne qui, justement, permet de freiner, enfin d'accélérer justement le principe de collecter de l'argent. Et donc, l'idée de Litchi est née et l'application concrète Litchi.com est arrivée en ligne.
Elisabeth, c'est vrai que les cagnottes en ligne ont totalement remplacé les enveloppes.
Mais oui, le numérique, tout simplement, qui a révolutionné nos moyens de paiement. Et on le voit, il y a de plus en plus de solutions qui nous permettent de payer autrement qu'avec du cash, de l'argent liquide ou avec sa carte bancaire, notamment les cagnottes qui ont donc remplacé les traditionnelles enveloppes. C'est un bon business, c'est assez lucratif, on peut le dire, puisque pour ces plateformes, la plupart d'entre elles prélèvent une commission de 3 à 5% lors du virement sur le compte de l'organisateur.
Alors dites-moi, les trois premières années, je crois que c'était assez facile parce que vous n'aviez personne en face sur ce modèle-là, sur le modèle de Litchi.
Alors on a été les inventeurs de la cagnotte en ligne, donc énorme succès et effectivement... Des concurrents sont arrivés petit à petit, mais on est resté de loin les leaders sur ce secteur-là, en travaillant toujours sur notre produit, en mettant en place de nouvelles fonctionnalités. Et pour vous donner à peu près un ordre d'idée, en 2018, on a collecté sur la plateforme plus de 200 millions d'euros. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on a 12 millions de clients. Et le service n'a pas changé en fait, drastiquement depuis...
Il n'a pas changé, mais il a évolué.
Il a évolué.
Voilà. En tout cas, dans ce que vous proposez, vous dites aujourd'hui, on est vraiment tourné vers des cagnottes solidaires. C'est quelque chose qui a émergé il y a combien de temps ?
Effectivement, on a commencé sur la partie cadeaux communs, donc des cagnottes plutôt... privé dans un cercle amical ou familial. Et en fait, on a constaté que la manière dont nos clients utilisaient notre service a aussi évolué. Et on n'avait pas du tout pensé, lors de la création de Litchi, que des personnes voulaient faire de l'appel aux dons pour aider, par exemple, des proches. Et fort de cette constatation, on a optimisé le service à partir de 2015 pour permettre justement de répondre à ce besoin très rapidement. Et donc, depuis 2015, on travaille dans ce sens-là et désormais, on a à peu près 50 millions d'euros qui est collecté dans ce but-là, dans le but solidaire.
Que dit notre coach, Marie-Éloi ?
Alors, on a tous utilisé votre cagnotte pour des cadeaux d'anniversaire et de mariage, effectivement. Mais là, on se rend compte que vous vous retrouvez finalement au cœur d'enjeux sociétaux et politiques. On a bien sûr en tête la cagnotte pour le boxeur Christophe Détinger ou même celle pour le soutien aux forces de l'ordre. Comment vous gérez ça ? Est-ce que vous aviez une charte éthique au démarrage ? Est-ce que vous avez dû l'implémenter ? Comment vous faites ?
Alors effectivement, notre métier a bien changé et la récente actualité le montre. On a, du coup, depuis 2015, fait évoluer le service, alors autant sur les fonctionnalités du site, mais aussi sur la manière dont on traite cela. Donc effectivement, nous, on a un principe fort qui est le principe d'universalité qui propose de dire que... on accepte des cagnottes pour tout type de motifs, pour n'importe quelle cause, projet, tant qu'elles respectent nos conditions d'utilisation et bien sûr qu'elles soient licites. Donc ça, c'est des choses qu'on a bien sûr fait évoluer avec le temps, puis aussi la manière dont on traite et on contrôle ces cagnottes.
Donc ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas de vérification de l'objet ?
Alors, chacun peut créer une cagnotte en deux secondes sur le site. C'est au moment où la cagnotte est créée que notre processus de contrôle se met en place. Et ce processus donc commence une fois la cagnotte créée jusqu'à la demande de sortie des fonds. Et nous sommes les seuls à pouvoir du coup accepter ou pas la sortie des fonds de la plateforme. Et ce contrôle se fait de plusieurs manières tout au long de la durée de vie de la cagnotte.
Parce que justement, Marie, la cagnotte pour le boxeur a été gelée, c'est ça ? Il y a des actions en justice par la suite. Donc c'est que vous contrôlez aussi l'image et l'utilisation de la plateforme.
Alors, on est bien sûr garant des cagnottes qui sont présentes sur notre plateforme et qui sont créées. Donc, à ce titre-là, on peut être amené à fermer des cagnottes. C'est arrivé dans ce cas-là, mais c'est déjà arrivé, notamment sur des cas où les cagnottes ne respectent pas nos conditions d'utilisation. Par exemple, le financement du terrorisme, par exemple, l'appel à la violence,
le financement
de la prostitution.
Moi, je peux créer une cagnotte pour un anniversaire et en fait, je vais le financer pour des choses terribles.
Alors, c'est là où on effectue.
Vous avez des modérateurs.
C'est là
vous
où
avez
on
des...
effectue ce contrôle depuis la création des cagnottes jusqu'à la sortie des fonds. Donc, certaines cagnottes sont fermées directement. Et par exemple, nous, quand on nous demande de virer les fonds sur un compte bancaire, on doit pouvoir tracer où vont les fonds et à qui et comment va être utilisé l'argent. Donc, tout simplement, on peut demander des pièces justificatives, comme par exemple, il y a des gens qui financent un enterrement ou quand il y a eu un décès dans une famille, on demande par exemple le certificat de
décès. Vous vérifiez.
Et bien sûr, tous les papiers d'identité des personnes, du bénéficiaire, etc. Donc, c'est très important.
Au départ, l'argent transitait par une banque. Aujourd'hui, il y a votre propre, vous êtes votre propre banquier, on peut le dire comme ça, clairement. Parce qu'il y a eu un changement aussi à ce niveau-là. Vous êtes rendu compte que c'était plus simple d'avoir la totalité du début à la fin de l'opération.
Alors, on a été, de manière générale, racheté par le groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2015. Ça, c'est une première chose. Et après, dans le mode de fonctionnement de Litchi, effectivement, on a eu des accréditations bancaires qui nous permettent de contrôler la chaîne de bout en bout. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on participe sur une cagnotte, l'argent ne va pas sur notre compte bancaire. L'argent est ce qu'on appelle séquestré sur un compte de cantonnement. Et ce compte est déséquestré au moment de la demande de virement ou bien du remboursement éventuel de certains participants.
Elisabeth, en plus de Litchi, je crois que vous avez noté d'autres. On parlait des concurrents, des cagnottes.
On va les citer, les concurrentes, c'est important. On a le pot commun qui a été racheté par le groupe BPCE, qui permet de simplifier les dépenses. Effectivement, pareil, pour les anniversaires, les pots départ, les mariages, les collectes de dons. Plus de 4 millions d'utilisateurs en France, avec des frais bancaires de 2,9% en dessous des 2 000 euros collectés et au-dessus des 2 000 euros collectés et 3,5% en dessous. Vous avez aussi Participe.fr, c'est une cagnotte 100% française. Elle est indépendante, elle travaille étroitement avec des associations. Elle propose gratuitement de recevoir les dons, de collecter par exemple des cotisations pour des associations, de recruter aussi des bénévoles. Et les professionnels peuvent aussi demander des dons quand leur entreprise a besoin d'un coup de pouce, 3,9% de prélevés par participation.
On reste ensemble, on continue à parler cagnotte et financement participatif aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si la musique rapprochait les gens, c'est pour faire émerger au départ de nouveaux projets qu'est né Kiss Kiss Bang Bang. A tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, on s'intéresse au boom des cagnottes et du financement participatif à la française. Bien sûr, vous pouvez réagir. Il y a déjà des messages et des questions sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter. Et puis le standard, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est le 3921.
C'est aussi en 2009, tiens, hasard ou pas, on va le savoir, qu'est apparu Kiss Kiss Bank Bank, une autre plateforme de financement et elle aussi française. Bonjour Vincent Ricordeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Kiss Kiss. L'idée, c'est votre compagne, hein, je crois qu'il a eu au départ pour rapprocher, alors je le disais tout à l'heure, des artistes, de leurs fans avec évidemment l'émergence des réseaux sociaux et de leur demander tout simplement de financer de nouveaux projets.
Tout à fait. Nous, on est né en avril 2009, donc on a un tout petit peu plus vieux que Litchi. On se considère comme le pionnier absolu, évidemment, dans le domaine. Effectivement, l'idée, c'était de permettre à tous les artistes de pouvoir financer leurs projets directement avec leur communauté. C'est la naissance des réseaux sociaux, c'est la naissance de MySpace, de Facebook. Et Omblin, donc mon associé et épouse, effectivement, vous êtes bien renseigné, me dit un jour en rentrant à la maison, on doit pouvoir créer un outil qui permet à tous ces jeunes artistes qui ne sont pas signés véritablement par des labels ou des boîtes de prod, de pouvoir financer leur projet directement avec leurs fans. Et donc voilà, sur ce, on s'est lancé directement dans ce projet qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, effectivement.
Et alors très vite, en fait, vous apercevez que les entreprises sont intéressées. Vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire directement avec elles.
Oui, alors on a commencé effectivement par la musique, on a ouvert très vite au cinéma et puis à toutes les sphères d'abord créatives, artistiques, puis très vite également à tous les formats d'associations. Et assez vite, on s'est aperçu que finalement, les petites entreprises pouvaient avoir besoin également de se financer en dehors des banques et de pouvoir solliciter le grand public pour financer leurs projets de développement. Donc on a participé activement à l'évolution des décrets et des lois sur le sujet pour zapper le monopole bancaire, et on a ouvert des plateformes, dont une qui s'appelle Lendopolis, qui permet aux citoyens d'investir en direct dans les entreprises.
Ouais, on va décrypter justement les modes de financement participatif, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vois Marie-Éloi, notre coach, qui brûle d'envie de vous poser une question.
Oui, parce que forcément, à la tête de réseaux d'entrepreneuriat féminin, je vois énormément de femmes entrepreneurs et d'hommes aussi, j'imagine, qui vont sur la plateforme KissKissBankBank pour justement financer leur démarrage d'entreprise ou un nouveau projet au sein de l'entreprise. Je sais que chez les femmes, c'est 79% d'entre elles créent leur entreprise sans aucun financement. Donc, aller faire des prêts à la banque malgré les garanties bancaires, ce n'est pas évident. En revanche, elles disent tous, elles semblent plus facilement attirées par le crowdfunding. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez le taux de réussite pour les entreprises qui se lancent et qui font du crowdfunding chez vous? Et puis, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs?
Alors, le pourcentage de réussite est de 70%. Il est le même pour les femmes que pour les hommes.
Bien sûr.
Il n'y a pas de distinguo sur le sujet. La puissance du financement participatif, c'est faire appel à sa propre communauté pour lancer un projet ou une entreprise. Donc qu'on soit une femme ou un homme, en l'occurrence, il n'y a pas de distinguo réel chez nous. Les conseils sont toujours les mêmes, qu'on soit femme ou homme. C'est qu'il faut comprendre que le crowdfunding, c'est mener une campagne.
C'est dur, c'est
du
boulot.
On n'est absolument pas une banque, c'est-à-dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas KissKissBankBank qui verse l'argent au projet. C'est un outil digital
qui
permet aux créateurs de projets de faire feu de tout bois dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux pour impliquer sa propre communauté. Et puis si on fait bien le job, sortir de sa communauté, potentiellement jusqu'à la communauté de KissKissBankBank, mais c'est avant tout une campagne. Et donc le premier conseil à donner, c'est préparez-vous du coup à donner du temps à votre collecte pendant tout le système qui a été le vôtre et la durée que vous aurez choisie, c'est-à-dire entre 15 et 45 jours.
Ouais, ça tombe pas tout cuit. Hein.
Ça marche plutôt bien, hein, parce que si je regarde les chiffres, c'est 130 000 projets, c'est ça qui ont été...
Non, c'est 30 000 projets. 30 000 projets qui sont passés chez nous, un peu plus de 20 000 financés. On a collecté plus de 125 millions d'euros.
100 millions de collectes. Et 1,5 million de contributeurs.
Du coup, on est, il y a plus d'1,5 million de Français qui sont inscrits chez nous. Donc, on est déjà dans la logique qui est la nôtre. On a monté nos plateformes pour faire en sorte que les Français reprennent le pouvoir sur leur argent et décident de ce qu'ils veulent en faire, à savoir pouvoir le donner ou l'investir dans l'économie réelle. Donc, du coup, on continue à œuvrer dans ce sens-là. Et on a des plateformes de dons comme KissKiss. On a une autre plateforme qui s'appelle Goodeed, qui permet de donner à des ONG en regardant la publicité. Donc,
c'est-à-dire que vous avez essayé de faire des plateformes au sein de la plateforme, c'est ça, des modes différents de financement.
En fait, on a monté une plateforme par cible. C'est-à-dire, on a KissKissBankBank pour tous les projets artistiques, créatifs, associatifs.
Lendopolis.
On a une plateforme qui s'appelle Lendopolis, qui permet aux entrepreneurs de venir financer leurs projets de développement. On est très, très axé énergie renouvelable, notamment depuis quelques années. Et on a une troisième plateforme qui est dédiée aux ONG,
Goodeed,
qui permet aux jeunes publics qui n'a pas d'argent, de pouvoir donner à des associations en regardant des pubs, puisque c'est l'annonceur qui va donner, reverser l'argent directement à l'ONG. Donc on s'efforce de couvrir en fait l'intégralité des pans de l'économie qui, selon nous, nécessitent la participation des citoyens.
Oui, il y a un endroit où vous êtes actif, un endroit où vous êtes plus passif, en fait, dans les plateformes, j'ai envie de dire.
Qu'est-ce que vous appelez actif ou passif ?
Il y a des niveaux différents dans les trois dont vous venez de nous parler. Il y a deux où vous n'intervenez pas directement, puis un troisième où vous êtes acteur. C'est le dernier d'ailleurs qui est arrivé il y a 5 ans, justement.
Je ne comprends pas votre question. Où est-ce qu'on intervient
Sur le prêt rémunéré, notamment.
Voilà, on intervient de la même façon sur les trois plateformes. C'est-à-dire nous sommes des outils digitaux qui permettent aux porteurs de projets, quelle que soit son obédience, sa typologie, de s'adresser au grand public. Donc du coup, elle fonctionne de la même façon.
D'accord.
Sauf que sur KissKissBankBank, on est dans une logique de don contre des contreparties en nature. Sur Goodeed, sur du don gratuit contre
de la publicité. Oui. Et le troisième,
effectivement. Et sur Lendopolis, donc vous investissez dans des entreprises qui vous rémunèrent entre 5 et 12% par an pour l'argent que vous leur avez confié.
Elisabeth, il y a d'autres KissKissBankBank.
Oui, il y en a d'autres. Il y a Ulule.
Oui.
Qui existe depuis 2010. Pareil, Ulule accompagne les créateurs, les entrepreneurs partout dans le monde. Il y a eu plus de 26 000 projets financés, notamment, par exemple, la rénovation par le musée d'Orsay d'une toile de Gustave Courbet. Donc, on peut trouver toutes sortes de projets. Et donc, chaque projet est accompagné de manière personnalisée. Le siège de l'entreprise Ulule est à Paris.
Vous avez justement des projets, d'autres possibilités d'étendre ce que vous faites aujourd'hui avec KissKiss. Vous avez d'autres idées ?
Je pense qu'on a couvert à peu près l'intégralité des pans de l'économie qui nous intéressaient fondamentalement. Il y a d'autres choses qui pourraient exister mais qui ne rentrent pas dans notre scope. On a vraiment une volonté toujours de développer notre entreprise dans une logique de citoyenneté, de permettre aux gens de se poser une question fondamentale. Qu'est-ce que je peux faire de positif avec mon argent ? Et donc du coup, lorsque vous couvrez les milieux artistiques, créatifs, associatifs et le milieu des entreprises, on a le scope qu'on avait imaginé au départ. Et on est très chanceux, 10 ans après, d'avoir réussi du coup à couvrir l'intégralité de ces territoires qui sont les nôtres aujourd'hui.
On reste ensemble, on continue à parler cagnotte et financement participatif aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si les associations et les projets qu'elles défendent étaient boostés par le numérique, c'est l'ambition aussi d'Hello Asso. A tout de suite. La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec un gros plan aujourd'hui sur le boom des cagnottes et du financement participatif à la française. Grâce à vos invités, on découvre tout ce qui se passe sur ces cagnottes. Raphaël Duchemin, et vous êtes nombreux à poser des questions et à réagir à cette émission sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, le standard.
C'est encore il y a 10 ans que le projet qui nous intéresse a démarré. Et oui, ça n'est pas un hasard. Bonjour Ismaël Lemoël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Hello Asso en 2009, au départ pour combler le retard des associations, je crois, en matière justement de projets numériques.
Effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de financement participatif. En réalité, nous, ce qu'on pense, c'est que le participatif, ça existe depuis des centaines d'années. Ça s'appelait avant l'associatif. Mm-hmm. Et qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, ce sont des milliards qui sont collectés par les associations chaque année. Et que ce qu'apporte le numérique, bah, c'est simplement une nouvelle façon de collecter de l'argent. Et notre mission chez Hello Asso depuis un peu plus de 10 ans, c'est d'aider les associations à rentrer dans cette ère numérique et de leur permettre finalement d'utiliser tout ce pouvoir de ce pouvoir citoyen, ce pouvoir de synchronisation au profit de leurs projets, de leurs beaux projets. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à n'importe quelle association en France de pouvoir gérer ses cagnottes sur Internet, que tout type de cagnottes, hein, que ce soit des adhésions ou des cotisations d'associations, que ce soit aussi pour des événements, quand l'association organise des événements. Et puis également, on parlait de solidarité tout à l'heure pour tous les dons ou les crowdfunding que peuvent organiser les associations.
Ça veut dire que vous ne travaillez qu'avec des associations et que vous sélectionnez par exemple les projets qui vont aller justement dans la plateforme d'Eloasso ?
Alors effectivement, on ne travaille qu'avec des associations. Ça, c'est un parti pris très très fort qu'on a eu dès le début. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parce que pour nous, les associations, c'est finalement une école de la citoyenneté. Dans une association, on se rencontre, on agit ensemble, on apprend à vivre ensemble. Et c'est un pan qui aujourd'hui, dans notre société, nous paraît un peu laissé de côté, pas forcément beaucoup mis en avant. Et donc, il nous paraissait intéressant de s'adresser qu'à ces associations-là. Et puis ensuite, effectivement, on parlait tout à l'heure de charte éthique.
Oui, alors vous en avez mis une en place.
Nous en avons mis une en place et on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit sur le numérique les différentes dérives qui peuvent avoir lieu sur de grandes plateformes, Facebook en tête, on l'a vu ces dernières années. Et ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, finalement, avec c'est une phrase de Churchill que j'aime beaucoup, la responsabilité est le prix à payer du succès. Et quand on a une plateforme qui devient gigantesque, eh bien, il nous semble que c'est de la responsabilité de cette plateforme de mettre en place tout un tas de dispositifs qui vont finalement permettre de modérer tous les contenus, toutes les associations qui rentrent sur notre plateforme. Et d'ailleurs, quand on fait le parallèle, finalement, on voit bien qu'il peut y avoir des déviances. On a vu la cagnotte de Génération Identitaire qui, sur PayPal, permettait de stopper, enfin essayait en tout cas de stopper les bateaux qui viennent en aide aux migrants. On a vu le cas de la cagnotte de Christophe Dettinger. On voit que ça pose des questions et que ce boom finalement des cagnottes en ligne impose finalement aux plateformes, à toutes les plateformes et notamment aux grandes qui sont réunies en plateau aujourd'hui, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour garantir l'éthique de ce qui est collecté. On parle d'argent, donc c'est extrêmement important.
Oui, on va y revenir dans un instant. Je voudrais juste qu'on regarde, parce qu'il y en a d'autres, évidemment, Elisabeth, qui se sont créées après vous et qui se sont aussi tournées vers les associations.
Oui, vous définissez un petit peu comme une start-up militante, hein, c'est ça. Mais il y en a d'autres. Il y a Allodon, par exemple, qui aussi programme des collectes de dons en ligne pour des associations habilitées à adresser un reçu fiscal aux donateurs. Ça, c'est important, c'est ce qui diffère des Litchi ou autres. Ou encore, vous avez ONG Conseil. Alors, elle est un peu plus ancienne que la vôtre, hein, puisque ça date d'il y a 15 ans. ONG Conseil qui a permis de recruter plus de 1,5 million de nouveaux donateurs réguliers pour 40 associations partenaires partout en France.
Vous gérez aussi, je crois, on parlait de reçus fiscaux, vous les gérez les reçus fiscaux pour les associations,
oui,
il y a une aide.
Exactement, en fait, nous, c'est l'avantage de pouvoir s'adresser qu'aux associations. Ce qu'on a cherché à faire sur Eloasso, c'est à faire en sorte que toutes les cagnottes qui sont organisées soient vraiment adaptées aux besoins spécifiques des associations. Et du coup, effectivement, sur le cas du don, on gère toute la partie reçus fiscaux. Et c'est aujourd'hui un peu plus de 60 000 associations qui nous font confiance sur ces sujets-là.
Marie, notre coach.
Alors moi, je vais être dithyrambique parce que pour l'association Femmes de Bretagne, on passe par Eloasso. Et ça a changé notre vie. Ça nous économise des journées de travail par mois. Vous faites effectivement les reçus fiscaux, etc. Et au début, on était assez sceptiques sur votre modèle économique parce qu'on se dit, mais comment ils se rémunèrent? Ils vont prendre un peu de ce qu'on va recevoir, nous. Et en fait, pas du tout. Chaque argent qui est donné à l'association nous revient. Et on a vu votre modèle économique.
Il y a une sorte de pourboire, c'est ça?
C'est ça.
Effectivement, c'est aussi un parti pris assez fort qu'on a eu dès le début d'Eloasso, où ça ne nous paraissait pas vraiment faire sens de prendre une commission comme peuvent le faire beaucoup de plateformes, comme peuvent le faire les banques également. Et il nous semblait intéressant d'aller jusqu'au bout du modèle et de finalement s'appliquer le principe du financement participatif qui est de se financer par la foule. Et donc Eloasso aujourd'hui repose exclusivement et paye ses 50 salariés grâce au pourboire volontaire qui est laissé par les contributeurs de la plateforme. La façon dont ça fonctionne, c'est très simple. Quand vous êtes en train de faire un don ou d'adhérer à une association sur Eloasso, on vous garantit que 100% de l'argent que vous êtes en train de payer retourne au projet associatif et vous avez la possibilité en plus de laisser un pourboire pour Eloasso.
Elisabeth.
Et vous arrivez à tous en vivre, les 48 personnes.
Exactement, oui, je vous rassure, ils ne sont pas payés au pourboire et on recrute. Donc,
quel type de profil
bien. Alors, on recrute deux types de profils. Chez nous, finalement, c'est assez simple. On a d'un côté, évidemment, comme tout le monde, des développeurs. Mm-hmm. Puisque,
on
est sur de l'outil informatique et j'en profite puisque nous sommes basés à Bordeaux. Donc, s'il y a des développeurs qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Et puis, la deuxième typologie de profils qu'on recrute, ce sont des personnes qui sont là pour accompagner les associations. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé parlé jusqu'ici. Mais,
qui ont l'habitude justement de gérer les dossiers, de faire toute la partie administrative.
C'est un peu plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les associations, et j'en reviens à la façon dont on a lancé LOASO, elles sont assez loin du numérique. Elles ne savent pas toujours par quelle boule prendre, comment commencer. Et donc, on a aujourd'hui une équipe de 15 personnes qui est là pour répondre aux questions de ces associations au téléphone. C'est gratuit, hein, bien sûr, toujours. Et on recrute beaucoup à cet endroit-là parce qu'il y a énormément de besoins. Les associations, encore une fois, ne savent pas comment utiliser Internet et on est là pour les aider.
Elisabeth, si je peux me permettre, j'ai une petite remarque parce que moi, je viens donc d'apprendre que vous pouvez vous payer grâce au pourboire. Moi, je pensais que quand il y avait écrit « vous pouvez donner un petit pourboire pour l'association », je pensais que c'était pour l'association qui demandait, qui récoltait de l'argent. Je ne pensais pas que c'était pour HelloAsso. Donc peut-être qu'il faudrait être plus clair, si je peux me permettre.
Alors on a aussi cette fonctionnalité-là. Pour le coup, ça dépend de sur quelle cagnotte vous allez, mais c'est quelque chose qui marche très bien. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lancer une adhésion ou une billetterie pour un événement, vous pouvez, en tant qu'association, dire « moi, je voudrais un don en plus pour mon association ». Et aujourd'hui, on a plus de la moitié des internautes qui, dans ce cas-là, laissent un don en plus. D'ailleurs, je vous invite à l'utiliser. Je sais pas
si on l'utilise, Marie-Éloi, la coach.
Ça n'a pas dû être simple de convaincre les investisseurs au démarrage en disant « on compte sur les pourboires que vous nous laissez, les donateurs ». Et donc sur la générosité finalement des donateurs, ça n'a pas dû être simple comme modèle économique à proposer.
Oui, effectivement, ça n'a pas été simple et ça ne l'est toujours pas en réalité. Hein. C'est-à-dire que ça pose toujours question. On a toujours beaucoup de questions sur des internautes ou des gens qui nous disent est-ce que ça marche vraiment ? Nous, aujourd'hui, on est assez serein sur la question. Hein. On a collecté à date un peu plus de 130 millions d'euros et dont près de 60 millions l'an dernier. Donc on sait que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de risque. Mais effectivement, c'est un modèle qui est un peu à l'américaine, les Français ont assez peu l'habitude de laisser un pourboire et donc voilà, ça demande beaucoup de pédagogie et d'ailleurs je vous remercie de nous inviter aujourd'hui pour pouvoir parler de ça aussi.
Et on va débattre maintenant, on va débattre autour des cagnottes et du financement participatif avec vous bien sûr.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On vous attend ainsi que vos questions au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, on s'intéresse au boom des cagnottes et du financement participatif. Vous avez déjà donné sur ces cagnottes. N'hésitez pas, venez nous le dire, venez poser vos questions aux invités de Raphaël. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter.
Marie-Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte, est notre coach aujourd'hui. Elisabeth Assayag est à mes côtés, ainsi que nos invités. Benjamin Bianchet, directeur général de Litchi. Vincent Ricordeau, président et cofondateur de Kiss Kiss Bang Bang et compagnie. Ismaël Lemoyle, président et cofondateur d'HelloAsso. Messieurs, j'ai une première question pour vous trois. Plutôt pour vous deux d'ailleurs, Benjamin, Vincent. Y a-t-il forcément des banques qui entrent à un moment donné dans l'aventure au capital ? Est-ce que c'est... un passage obligé, Vincent Ricordeau.
En l'occurrence, sur les trois plateformes que vous avez autour de la table, on est toutes les trois aujourd'hui en fait filiales de banques. Alors chez nous, c'était un vrai cas de conscience.
Oui.
On sait, on continue à se présenter comme un modèle de finance alternative. On a longtemps hésité. Pour autant, on est sur un marché qui est contraint, avec des modèles économiques qui sont quand même compliqués.
Qu'est-ce que ça change ?
Ça change que vous avez en votre sein la vision de la finance de demain. C'est-à-dire une finance qui est plus citoyenne, une finance qui est plus tournée vers l'économie réelle et qui, irrémédiablement, ceux que ça intéresse le plus, c'est les banques. C'est-à-dire que vous portez en vous les germes de ce que la finance doit devenir demain. Et assez naturellement, les premières discussions qui ont eu lieu sur ce marché sont entre les banques et les plateformes de financement participatif. Pour être franc, pour conclure sur le sujet, nous on s'est accoquiné avec la Banque Postale, parce que la Banque Postale est la banque citoyenne ouais. par excellence, avec une notion de service public qui est très important. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous, le cas de conscience aurait été peut-être même insurmontable si les discussions avaient eu lieu avec les autres grandes banques du marché.
Alors justement, vous c'est Crédit Mutuel, Arkéa, la filiale, comment s'est opéré le choix ? Qui est venu vers qui ?
Alors effectivement, nous, on s'est adossé au Crédit Mutuel Arkéa en 2015. C'est vrai qu'on a aussi une histoire avec eux depuis très longtemps, puisque Ronan Lemoyle, le directeur général de Crédit Mutuel Arkéa, a suivi l'aventure Litchi depuis les débuts, puisqu'il était, il faisait partie de notre board. C'était aussi notre banque depuis le début. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire commune qui s'est construite progressivement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on était en balance entre soit refaire une levée de fonds dans une dynamique de croissance ou réfléchir à une cession. Et c'est vrai que les discussions étaient relativement naturelles et aussi nécessaires pour emmener le projet Litchi et puis le projet MangoPay, qui est notre service B2B, beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que c'était quelque chose lié à notre histoire et puis une belle opportunité pour continuer à accélérer le développement.
Un levier de développement. Même question pour vous d'ailleurs. Ismaël Lemoyle.
Oui, nous, de notre côté, c'est peut-être un peu différent. Nous, ce qui était très compliqué dans l'histoire, je le disais à l'instant, c'est que c'est assez compliqué d'aller vers des investisseurs avec un business model au pourboire. Et c'est ça, avant tout, qu'on a regardé. C'est-à-dire qu'on voulait des gens qui nous soutiennent, qui croient en ce modèle, qui le comprennent et qui voient une vision d'avenir. C'est comme ça qu'on a choisi de notre côté.
Je crois qu'on a des messages, Anissa, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, bien sûr.
Des messages et des questions. Alors, Marc vous demande à tous les trois, est-ce que l'évolution de vos cagnottes pourrait se diriger un jour vers les crypto-monnaies comme le Bitcoin?
Ah. Oui.
Vincent Ricordo.
Forcément.
Oui.
Forcément, on y réfléchit tous.
Oui, vous confirmez, vous y réfléchissez tous.
Derrière la crypto-monnaie, vous avez un système qu'on appelle la blockchain.
Pas forcément.
Et pour le coup, la blockchain est la formule ultra avancée de cette logique de peer-to-peer. Et cette logique donc d'individu à individu, puisque c'est un système qui fait fi d'autres intermédiaires. Donc forcément, mécaniquement et intellectuellement, ça nous intéresse. Après, il y a des barrières justement technologiques qui sont importantes et c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, mais sur lequel on n'a pas pris parti encore aujourd'hui.
Ismaël.
De notre côté, c'est chez Alloasso effectivement quelque chose qu'on regarde d'assez près parce que la technologie est effectivement très intéressante. En revanche, on trouve ça aussi un petit peu risqué parce que nous, ce qui nous intéresse chez Alloasso, c'est qui est financé. Le principe du Bitcoin, c'est que c'est anonyme, donc c'est un peu plus complexe et c'est quelque chose qui nous empêche complètement d'aller vers ce genre de technologie.
On a d'autres questions, je suppose.
Oui, alors celle-ci, elle est pour Benjamin Bianchet, puisque Clara demande, avez-vous déjà démasqué des pratiques louches sur Litchi? Comment êtes-vous intervenu? Y a-t-il des remboursements dans ces cas-là?
Alors effectivement, notre métier, c'est de faire collecter aux gens de l'argent pour financer leurs projets, mais c'est aussi de garantir la sécurité de la plateforme, que ce soit pour le créateur de cagnottes ou pour les participants. Ça nous arrive régulièrement de clôturer des cagnottes, de fermer des cagnottes suite à leur création, puisque des fois...
C'est-à-dire régulièrement, vous avez un chiffre à nous donner peut-être?
Non, je n'ai pas de chiffre à communiquer, mais toutes les semaines, il y a quelques cas qui se présentent. Et c'est vrai qu'en général, c'est plutôt des cagnottes qui ne respectent pas nos conditions d'utilisation, comme j'ai dit précédemment, ou qui ne sont pas licites. Donc ça, c'est des cas où on tranche assez rapidement et la cagnotte peut être amenée à être fermée. Très bonne nouvelle, on n'a jamais...
L'argent
qui est collecté, bien sûr, l'argent est remboursé auprès des participants. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 15% de l'entreprise où des gens travaillent sur ces problématiques de sécurité. Donc, c'est pas négligeable.
Et d'ordre juridique, je suppose aussi.
Juridique, financier et puis de sécurité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend très au sérieux.
La coach, Marie-Éloi.
Alors, vous êtes tous les trois en concurrence, en tout cas sur des segments. Est-ce que vous pouvez dire en deux mots ce qui vous différencie des deux autres? Quels sont vos avantages pour aller chez vous?
Là, ce qui nous définit, c'est les segments d'activité. Donc, nous, on est une plateforme généraliste, en tout cas pour qu'est-ce qui manque, à l'intérieur de laquelle nous avons un tiers d'associations. Donc là, sur cette thématique-là, on est évidemment en concurrence avec Alloasso. Sur nos autres activités, on est en concurrence ni avec l'un ni avec l'autre. Chez Litchi, de plus en plus, vous avez également des cagnottes qui viennent un petit peu sur le créneau de qu'est-ce qui manque, mais en minorité. Donc, on a nos spécificités sur nos positionnements.
Ismaël.
Oui, côté Alloasso, c'est très très simple. Hein. C'est dans notre nom. On s'adresse qu'aux associations. On essaye de coller à ce besoin-là. Et puis, la différence fondamentale d'Alloasso par rapport aux autres plateformes et l'écrasante majorité des plateformes qui existent aujourd'hui en France, c'est qu'elle est complètement gratuite pour l'association, ce qui est une différence fondamentale.
Le mot de la fin, Benjamin.
Alors effectivement, chez nous, on continue à exercer notre métier de base qui est de faire collecter de l'argent pour organiser des cadeaux d'anniversaire et des pots de départ. C'est le gros de notre activité. Et ce qui arrive et ce qui est la tendance actuellement, c'est le boom en fait, de ces cagnottes solidaires.
Oui, c'est 20% de votre activité, je crois.
C'est 20% de notre activité. Surtout, c'est la part de l'activité qui grandit le plus vite puisque la somme a été doublée entre 2017 et 2018. Donc c'est vraiment... notre marque de fabrique à l'heure actuelle, de pouvoir proposer un service qui permet de collecter de l'argent pour aider quelqu'un, une cause, une personne directement.
J'espère que vous avez pu mieux découvrir les cagnottes et le financement participatif à la française. Merci messieurs d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Et il est 13h37.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Elle est avec ses couteaux dans les cuisines de bon nombre de familles françaises. Opinal est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci. À tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1. Et vous le savez, chaque jour, Raphaël Duchemin vous présente une entreprise française qui va bien. Celle-ci, vous la connaissez forcément. Il y en a forcément un dans votre cuisine, Raphaël.
Oui, vous avez raison, Anissa. On la connaît tous. C'est Opinel. Bonjour, Luc Simon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de cette belle maison dont l'histoire commence en 1890, presque 130 ans.
Absolument, l'entreprise fêtera ses 130 ans l'année prochaine. Une longue histoire qu'on essaye de faire perdurer et qui perdure pas mal.
Oui, l'histoire qui commence du côté d'Albertville, hein, où le jeune Joseph Opinel, qui a quoi, 18 ans, se rend compte qu'on fabrique de plus en plus, alors moi je ne le savais pas, de pantalons avec des poches.
Et oui, et il se dit, qui dit poche dit couteau de poche. Et il crée exactement près d'Albi-et-le-Vieux, près de Saint-Jean-de-Maurienne, donc en Maurienne, le couteau fermant est vraiment son premier acte fondateur, a été de travailler pour trouver le plus beau couteau fermant possible, le plus robuste, le plus simple, le plus efficace possible.
Oui, ça n'est pas un hasard parce qu'il est d'une famille justement où on fabrique des outils tranchants, on appelait ça les taillandiers, c'est ça à l'époque ?
C'est absolument ça, il fait partie effectivement d'une longue lignée de taillandiers.
Alors très vite, il va déposer, et ça c'est très fort, hein, très vite il dépose l'idée, on est je crois en 1909.
Absolument, il dépose deux marques. Ça faisait partie de ses éléments visionnaires qu'il avait en tête. Il comprend très vite l'importance des marques et il dépose la main couronnée, qui est ce qu'on retrouve encore sur toutes les lames Opinel.
L'emblème d'Opinel.
Exactement. Et puis la marque Opinel également.
Alors pourquoi justement la main couronnée? Il y a une explication là aussi historique.
Oui, il réunit deux symboles qui sont d'une part la main bénissante de Saint Jean-Baptiste, qui était le saint patron de Saint Jean de Maurienne, et puis surmontée d'une couronne pour rappeler que la Savoie était un duché.
Alors le couteau de poche, dites-moi, avec le manche en bois qu'il fabrique au départ, c'est celui qu'on connaît encore aujourd'hui, le fameux numéro 8, le plus célèbre ?
Alors c'est un des éléments assez extraordinaires, effectivement. Des entreprises qui ont 130 ans, il y en a quelques-unes, même pas mal. Mais le produit numéro 1 encore dans notre gamme est celui créé par Joseph Opinel en 1890. Il n'a pratiquement pas changé, il y a juste un élément de plus qui est apparu en 1955, créé par son fils Marcel, qui est une bague de sécurité, la fameuse bague Virobloc qui a fait qu'un peu moins d'enfants et de scouts se sont coupés avec un Opinel.
Oui, on a du vécu en studio.
Oui,
Elisabeth.
Ça me rappelle quelques souvenirs.
Dites-moi, il y avait combien de tailles à l'époque? Une douzaine, c'est ça?
Alors, dès 1989, il crée 12 tailles. Ça aussi, il avait une vision marketing, on pourrait dire, en tout cas d'adaptation aux différents usages. Et donc, dès 1989, il crée 12 tailles, du 1 au 12.
Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On en a quelques-unes avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez les voir sur europe1.fr. Vous avez véritablement élargi la gamme. C'est ça qui redynamise vraiment Opinel.
C'est un des éléments qui fait que l'entreprise effectivement se porte très très bien. L'activité a triplé depuis une douzaine d'années.
Le nombre de tailles. 350 références aujourd'hui.
Oui, voilà. Le nombre de tailles n'a pas changé. Par contre, on s'est développé dans la cuisine, dans la table, avec de nouveaux matériaux, des nouvelles couleurs, plein de nouveaux usages pour les enfants également.
Mais toujours deux assiettes, dont le fameux acier inoxydable.
Alors l'acier inoxydable, effectivement, et puis on continue à travailler un acier à haute teneur en carbone, qui est celui qui s'oxyde, mais qui s'affûte super bien et qui est assez connu également.
Marie, la coach.
Oui, vous avez toujours beaucoup protégé vos marques, donc en 1909, la marque, etc. Mais j'ai vu que récemment, vous avez aussi déposé la protection, la forme de la lame, c'est-à-dire même la forme de la lame ne peut pas être copiée, parce que vous êtes sujet aux contrefaçons.
Alors oui, on l'est un petit peu. La meilleure protection, c'est notre très bon rapport qualité-prix. Ça a toujours été ce qui fait qu'on a quand même laissé pas trop de place à la copie, mais il peut y en avoir. Et effectivement, ce qu'on a obtenu après beaucoup de démarches récemment, c'est ce qu'on appelle le dépôt d'une marque tridimensionnelle. C'est-à-dire que la forme est reconnue comme étant absolument attachée au couteau Opinel, en plus du nom Opinel.
Anissa, une question?
Alors une question et surtout une info pour les parents qui ont des Opinel et qui voudraient perpétuer la tradition et en offrir à leurs enfants. C'est possible parce que maintenant il existe un Opinel bourron pour les tout-petits.
Pour les petits?
Tout à fait, on l'a créé il y a une dizaine d'années et il permet d'être, le bout est rond comme vous l'indiquez, donc d'être un peu plus sécurisé pour les jeunes utilisateurs d'Opinel.
À partir de quel âge?
Alors ça peut dépendre des enfants et des parents, mais on va dire 6, 7, 8 ans.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est toujours, au Pinel, une maison familiale.
Oui, oui.
Quatrième génération.
Exactement, c'est vraiment une histoire de fidélité, la fidélité d'une famille à cette région, à l'entreprise. Et on en est à la quatrième génération, François et Denis Opinel, qui sont les présidents et dirigeants de l'entreprise.
Oui,
et
qui ont donné un nouveau souffle, hein, parce qu'il y a 12 ans, le chiffre d'affaires était, je crois, de 8 millions. Aujourd'hui, il est multiplié par 3, ce qui est énorme. Et vous avez une centaine de salariés, toujours dans la région de Chambéry, parce qu'entre-temps, vous aviez déménagé.
Alors, on a déménagé à 1 km. On a déménagé en 1917 à Cognin, à côté
fois,
de Chambéry.
Oui.
Et puis, dans les années 80, et puis définitivement début de 2000, à Chambéry. Et on va même être cette année plutôt à 130 salariés. On a grandi l'usine régulièrement et on sera passé de 80 à 130 salariés cette année.
L'Opinel, aujourd'hui, c'est un objet de collection. C'est aussi un mot dans le dictionnaire. Ça change aussi beaucoup les choses pour une entreprise comme la vôtre.
Oui, ça permet d'accroître encore la notoriété en France et à l'étranger. Je citerai le MoMA également, Musée d'art moderne de New York, qui a reconnu Opinel comme un des très beaux objets du XXe siècle. Et ça nous aide également dans la conquête des États-Unis, qui est un de nos projets actuels.
Oui, c'est ça l'avenir, justement. C'est l'arrivée ou en tout cas l'implantation aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, c'est déjà bien avancé. On a créé une filiale il y a 2 ans, mais on est encore au début de l'histoire, mais ça progresse fortement. Et puis, il y a l'Europe, où on est correctement distribué. Et puis, l'Asie, où on essaye de s'implanter.
La concurrence, justement, avec les couteaux, les célèbres couteaux japonais, c'est difficile, c'est plus compliqué pour s'implanter.
Alors, sur les grands couteaux de cuisine, là, clairement, ils sont très forts. Hein. Sur le couteau de poche, on a une vraie place à trouver. Et peu à peu, on la trouve.
C'est Opinel, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Luc Simon d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Et il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Une peluche pour chaque enfant qui les suit pendant leur parcours de soins. C'est l'opération lancée à l'hôpital Necker. C'est l'hôpital de Mondoudou, une solution pour mieux les accompagner. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Vous écoutez Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps de découvrir maintenant la solution du jour et elle est à destination des enfants qui sont hospitalisés, Raphaël.
Accompagner les enfants à l'hôpital, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Comment apaiser leurs angoisses? Comment améliorer la qualité de vie pendant le temps qui est passé là-bas? C'est ce que propose justement l'opération L'Hôpital de Mondoudou, Elisabeth, pour faire en sorte que l'hôpital soit plus chaleureux, plus ludique aussi.
Oui, c'est la direction de l'hôpital Necker et l'association PharmaVie qui inaugure aujourd'hui, l'hôpital de Mondoudou, l'hôpital Necker. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un hôpital 100% dédié à l'enfant, 100% pédiatrique. Il est situé à Paris. Il est réputé pour la qualité de ses soins. Mais au-delà de l'aspect médical, eh bien, c'est important de faire en sorte que le moment passé à l'hôpital reste plus ou moins un souvenir agréable, on va dire, pour l'enfant. Et c'est ainsi que le concept L'Hôpital de Mondoudou accompagne les enfants malades. Il aide à dédramatiser les examens. Ça existe déjà au CHU de Tours, à Albertville, à Robert-Debré, à Paris, ainsi qu'au centre hospitalier de Cannes.
Bonjour Marie-Claude Santini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association PharmaVie. L'inauguration, Elisabeth le disait, a lieu aujourd'hui. C'est quoi ce concept d'hôpital de Mondoudou?
Alors tout d'abord, l'association PharmaVie, ça regroupe 800 pharmacies dans tout le territoire français. Et nous portons un projet qui est l'hôpital de Mondoudou depuis 2015. Nous installons des aires de jeu et de dédramatisation pour tous les enfants malades. Cela permet au personnel soignant, aux équipes médicales et aux infirmières de tout expliquer au travers de notre mascotte qui est tout doux. Alors je suis désolée...
Tout doux. Qui est une peluche,
qui est un ourson qui se reconnaît par son pansement sur le front, qui permet à l'enfant de s'identifier à lui. Et au travers de ce tout doux, évidemment, ça devient son compagnon de galère. Et c'est vraiment une belle histoire, c'est un lien qui se crée entre tous les deux et ça... Et il fait son job, justement, le rassurant, dédramatisant, et ça aide aussi le personnel soignant.
Il parle tout doux ?
Tout doux ne parle pas. Mais le personnel soignant le fait parler, explique aux enfants ce qu'il va se passer. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant est rassuré, ça dédramatise, il est vraiment serein.
C'est quoi une ère de dédramatisation à l'hôpital? Vous avez repensé les couleurs, c'est quoi?
Alors c'est un concept, en réalité c'est un mini-hôpital.
Dans l'hôpital,
c'est un espace qui est dédié. Alors on travaille avec les équipes, c'est un travail collaboratif. On essaye de voir avec les équipes où Toudou peut effectivement bien faire son job et bien les aider à rassurer les enfants. Et ça permet donc au niveau de l'installation, le Toudou, si vous voulez... Je suis désolée.
Non, vous êtes émue, mais c'est pas grave.
Et c'est vrai que
on est en direct.
On est en direct. Je suis très très émue. Effectivement, c'est notre cinquième hôpital de mon doudou. Je suis un petit peu sous pression parce que ce soir, effectivement, nous avons l'inauguration. Et donc voilà. Alors je reprends, si vous permettez. Pardon pour ce petit moment.
Je vous en prie, allez-y.
On est en famille ici.
Voilà. Donc.
Et puis c'est un sujet difficile. Donc c'est pas évident.
C'est un sujet effectivement difficile. Il y a tellement de choses à dire et tellement de pour mettre tout ça en place, c'est pas évident. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très très important parce qu'ils font.
Donc ça passe par des couleurs, j'imagine.
Alors vous c'est un. Je reprends. Effectivement, je reprends
quelque chose.
Donc c'est un mini hôpital, mini pharmacie. Il y a une mini radio, mini scanner, mini RM, notamment à Tours qui a fait, qui a remporté un grand succès auprès du personnel soignant.
Donc pour que ce soit à la portée des enfants et qu'ils puissent se familiariser avec tout ce qu'ils vont rencontrer comme examen.
Absolument. Donc c'est vrai que si vous voulez, Toudou permet à l'enfant de pouvoir...
Bah, il n'est pas seul,
il est pas seul,
il est accompagné.
Voilà. Il est accompagné.
Marie, vous avez une question ?
Oui, alors vous êtes hyper émue, mais nous aussi, parce que c'est super beau ce que vous faites pour les enfants. Et merci, parce que je me rappelle encore il y a quelques années, ma fille qui partait au bloc et on me disait, mais vous inquiétez pas, de toute façon, elle s'en souviendra pas. Donc il n'y avait aucune prise en charge de l'émotion, etc. Alors je suis peut-être mal tombée, mais ce que vous faites, votre association, comme d'autres associations, les petits doudous, etc., j'ai l'impression qu'on sort de cette ère-là et que justement, les sentiments, les émotions des enfants sont de plus en plus prises en compte.
Absolument. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une part de prise en charge psychologique de la douleur, de la souffrance dont on tient compte et qu'auparavant on ne tenait pas compte. Et je tiens souvent, c'est vrai que je suis émue à chaque fois et ça fait depuis quelques années ce qu'on porte ce projet. On est à notre cinquième hôpital. On espère en installer 10 d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir les aider, les accompagner. En plus, ils font preuve d'un courage, je peux vous assurer, de les voir au quotidien avec les équipes soignantes. Ils font preuve d'un courage dont je pense que les adultes pourraient s'en inspirer. C'est vrai qu'ils ont une force intérieure. Alors, est-ce que c'est leur innocence? Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
Vous en parlez très bien.
L'hôpital de Mondoudou, installé donc à partir d'aujourd'hui à l'hôpital Necker.
Absolument.
À Paris. Hôpital, vous le disiez Elisabeth, spécialement dédié aux enfants, c'est important. Et une dizaine, on a bien noté,
on vous suivra,
on prendra des nouvelles
d'ici la
fin de l'année. Merci Marie-Claire Fortuny d'avoir été avec nous.
Merci
à Marie-Éloi qui était notre coach. Elisabeth, nous on se dit à demain. Et nous serons le jour d'après la grande manifestation qui a lieu ce soir. On a eu envie justement de s'intéresser à ceux qui œuvrent au quotidien à faire avancer la laïcité. Ils seront avec nous dans La France qui bouge.